VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 23 août 2022, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia. Pour commencer, les titres. Lutte anti-djihadiste, le Burkina et le Niger invitent le Mali à revenir dans une coopération militaire. En Angola, des milliers de personnes lundi au dernier meeting de l'opposition avant les législatives de mercredi devant décider du prochain président. Au Kenya, le perdant Raila Odinga conteste officiellement les résultats de la présidentielle du 9 août devant la Cour suprême. Sommet aujourd'hui en Égypte entre 5 dirigeants arabes sur la sécurité énergétique et alimentaire. L'ex-président américain Donald Trump demande la nomination d'un expert indépendant suite à la perquisition du FBI à son domicile en Floride. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le Burkina Faso et le Niger, deux pays touchés par les violences djihadistes parties du Nord Mali en 2013, ont invité hier Bamako à revenir assumer ses responsabilités dans le cadre d'une coopération sous-régionale dans la lutte anti-djihadiste. C'est ce qu'a estimé le ministre de la Défense du Niger, Alkassoum Indatou, au sortir d'une rencontre avec le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. En mi-mai, les autorités de transition au Mali, empêchées d'en assurer la présidence, ont décidé de se retirer du G5 Sahel et de sa force conjointe, invoquant une perte d'autonomie et une instrumentalisation au sein de l'organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. En Angola, des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Luanda pour le dernier meeting de l'opposition avant les élections législatives de demain qui décideront du prochain président Abdourahmane Dia.
Presidente Adalberto a scandé la foule à l'arrivée du dirigeant du plus grand parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA. Vous démontrez que l'Angola a un esprit combatif, lance Adalberto Costa Junior, surnommé le coq noir, devant une foule composée essentiellement de jeunes aux couleurs du parti, le rouge et le vert. Il a promis de mettre fin au règne du mouvement populaire de libération de l'Angola au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1975. Depuis un peu moins d'un an, cet homme de 60 ans, réputé bon orateur, a réussi à rallier plusieurs partis d'opposition. Il a rassemblé de jeunes électeurs urbains autour de promesses de réforme et de lutte contre la pauvreté et la corruption. Il apparaît ainsi comme le candidat le plus sérieux pour mettre un terme à la longue domination du mouvement populaire de libération de l'Angola sur ce pays pétrolier d'Afrique australe. Le président João Lourenço, élu en 2017, et candidat du MPLA, brigue un deuxième mandat.
Au Kenya, l'opposition Raila Odinga a officiellement contesté hier devant la Cour suprême les résultats de la présidentielle du 9 août qui l'ont donné perdant face au vice-président sortant William Ruto. Il assure avoir suffisamment de preuves de sa victoire, Mohamed Oumfa.
Après une version électronique transmise en ligne lundi matin, la copie physique est arrivée en présence de Raila Odinga un peu avant 10h GMT, environ une heure avant l'heure limite. Des dizaines de cartons de documents ont été acheminés par camion à la Cour suprême de Nairobi, puis déchargés devant l'objectif des caméras et sous les acclamations des partisans de M. Odinga. « Nous avons suffisamment de preuves montrant que nous avons gagné l'élection », a déclaré un peu plus tard Raila Odinga depuis son quartier général. Il a affirmé que ce recours s'inscrivait dans son combat historique pour la démocratie contre ce qu'il appelle les cartels de la corruption qui lui ont volé la victoire, sans donner plus de détails. Selon la requête consultée par l'AFP, le camp Odinga affirme notamment qu'aucun candidat n'a passé le seuil constitutionnel des 50% des voix et que l'élection a été entachée de manière substantielle et significative par des irrégularités. Un total de 9 recours ont été déposés. Outre celui de M. Odinga, les autres ont été déposés par des ONG et des particuliers. La Cour suprême dispose de 14 jours pour rendre sa décision.
Des proches de Sierra Leone tués lors de récentes émeutes contre la hausse des prix et le gouvernement sont allés les identifier hier dans une morgue de la capitale Freetown, dont le personnel a dit avoir reçu 31 corps, précisant que 5 des défunts sont des policiers et 26 des civils. La majorité des victimes portaient des marques de blessures par balle, selon un employé de la morgue. Aucun bilan officiel des émeutes n'a été publié à ce jour.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président français Emmanuel Macron a assuré hier le premier ministre israélien Yair Lapid qu'un accord sur le nucléaire iranien, dont les négociations semblent entrer dans la dernière ligne droite, prendrait en compte les intérêts d'Israël. Le point avec Michel Joseph.
Le président Emmanuel Macron a dit à Yair Lapid son souhait de voir se poursuivre les efforts pour obtenir un accord prenant en compte les intérêts de sécurité d'Israël comme des autres pays de la région, a indiqué l'Élysée à l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants. Les présidents Joe Biden, Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre britannique Boris Johnson ont fait le point dimanche lors d'une conversation téléphonique sur les négociations en cours. Après le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord en 2018 et le rétablissement des sanctions américaines, Téhéran s'est progressivement affranchi de ses obligations. L'objectif des pourparlers en cours à Vienne, auquel les États-Unis participent de manière indirecte, est de relancer cet accord. Israël s'oppose à ce pacte qu'il juge contre-productif et souhaite le maintien de sanctions contre l'Iran. Une réunion pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 pourrait se tenir cette semaine à Vienne, après la réponse de l'Iran au texte final préparé à l'Union européenne, a indiqué lundi le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell.
Ici aux États-Unis, le docteur Anthony Fauci, principal conseiller du président Joe Biden sur le COVID-19, a annoncé hier qu'il quitterait ses fonctions en décembre. Âgé de 81 ans, le docteur Fauci a passé plusieurs décennies à combattre différentes épidémies aux États-Unis et à travers le monde. Claire Morin-Gibourg.
L'immunologue va se retirer également de son poste de directeur de l'Institut national des maladies infectieuses qu'il occupait depuis 38 ans. Très respecté, mais aussi détesté par une partie de la population conservatrice, il était devenu ces deux dernières années le visage de la lutte contre la pandémie du Covid-19 aux États-Unis. Le président Joe Biden lui a immédiatement adressé ses profonds remerciements. Les États-Unis sont plus forts, plus résilients et en meilleure santé grâce à lui, a-t-il salué dans un communiqué. Fils de pharmacien, M. Fauci a servi sous 7 présidents américains, en commençant par Ronald Reagan. Sous le président républicain George W. Bush, Anthony Fauci a été l'artisan du programme PEPFAR qui a sauvé la vie de millions de personnes atteintes du sida. Le docteur Fauci a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas encore pour lui de prendre sa retraite. « Je prévois de poursuivre la prochaine étape de ma carrière avec toute l'énergie et la passion qu'il me reste pour mon domaine », a-t-il déclaré.
Les dirigeants d'Égypte, Abdel Fattah al-Sissi, des Émirats arabes unis Mohamed Ben Zayed al-Nahyan, d'Irak Mustafa al-Kazimi, de Bahreïn Ahmad Ben Issa al-Khalifa et de Jordanie Abdallah II, tiennent ce mardi un sommet axé, selon les médias égyptiens, sur la sécurité énergétique et alimentaire dans la foulée de l'invasion russe de l'Ukraine. Cette rencontre a lieu dans la ville septentrionale d'Al-Alamein en Égypte. L'Ukraine a reconnu lundi que près de 9000 de ses soldats avaient été tués depuis le début de l'invasion russe il y a 6 mois. De son côté, l'Union européenne envisage une mission d'entraînement de l'armée ukrainienne face à une guerre qui dure. Et puis, les services de sécurité russes ont accusé lundi l'Ukraine d'avoir tué la fille d'un idéologue réputé proche du Kremlin, morte dans l'explosion de sa voiture. Près de Moscou, Vladimir Poutine dénonçant un crime ignoble, Kiev dément. Et puis le président, l'ancien président Donald Trump, a demandé lundi à un tribunal de nommer un expert indépendant pour examiner les documents saisis par le FBI lors d'une perquisition à domicile. La Minute Éco, Mohamedou Houfa.
La Banque mondiale a accordé lundi 300 millions de dollars au Mozambique, 6 ans après avoir suspendu son aide à la suite d'un scandale financier impliquant le gouvernement de ce pays. Les fonds sont destinés à des projets d'infrastructure et à l'amélioration des conditions de vie de la population, a déclaré le ministre mozambicain des Finances. Le directeur pays de la Banque mondiale pour le Mozambique a insisté de son côté sur le fait que ces fonds devaient venir en soutien à des réformes structurelles et pour renforcer la responsabilité et la transparence du secteur public. En Guinée, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Lonsen Inabé, a bénéficié lundi d'une libération provisoire sous caution $1,142,000. Inculpé pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment de capitaux, il a été incarcéré en mars 2022. Il aura aidé l'affineur belge Affinor à faire main basse sur environ 3 tonnes d'or de la réserve extérieure de la Banque centrale guinéenne. L'euro plongeait lundi sous la parité avec le dollar, prise en étau entre une crise énergétique majeure en Europe et une politique de la Banque centrale américaine qui a relevé ses taux directeurs afin de faire face à l'inflation. Vers 18h15 UTC, l'euro perdait 1,05% à $0,99, un plus bas depuis décembre 2002. Certains analystes voient l'euro déraper encore davantage à mesure qu'arrive l'hiver.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Walid Regragui est le nouveau sélectionneur du Maroc.
Oui, la Fédération royale marocaine de football a conclu un accord avec l'ex-coach du Wydad Casablanca, Walid Regragui, pour prendre les rênes de l'équipe nationale, les Lions de l'Atlas, après le départ de Vahid Halilhodžić, remercié à 3 mois du mondial au Qatar, selon les médias locaux. Selon le site spécialisé eSport, Regragui a signé ce week-end un contrat de 3 ans avec la Fédération royale marocaine de football. La nomination officielle du nouveau sélectionneur national est attendue dans les prochains jours, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Fédération. Sans plus de détails, le choix de Walid Regragui, déjà largement commenté avant le départ de Halilhodžić, n'est pas une surprise.
En France, Lille sanctionne Mohamed Bayo.
L'international guinéen de 24 ans, écarté dimanche avant la rencontre face au Paris Saint-Germain pour raisons disciplinaires, a écopé d'une amende de 75 000 euros. En outre, il a été mis à disposition de l'équipe réserve jusqu'à nouvel ordre, indique une source proche du club. Recruté cet été par le LOSC pour plus de 12 millions d'euros en provenance de Clermont, Mohamed Bayo a été photographié dans la nuit de samedi à dimanche dans un établissement nocturne de Lille et la photo a été publiée sur les réseaux sociaux. C'est un manque de respect vis-à-vis du club, un manque de respect vis-à-vis du staff technique et aussi de nos supporters, a asséné le président du club, Olivier Letang.
En Angleterre, Manchester United se relance.
Dans un contexte sportif et extra-sportif chargé, Manchester United s'est adjugé sa première victoire de la saison, 2-1, contre le vice-champion sortant Liverpool, en clôture de la 3e journée de Premier League hier. L'Égyptien Mohamed Salah a inscrit l'unique but des Reds, son 10e dans le derby d'Angleterre, soit un but de plus que Steven Gerrard, qui compte 9 buts dans ce derby. Mo Salah devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire des Reds dans le derby d'Angleterre. Grâce à cette victoire, les Red Devils remontent à la 14e place, 2 rangs devant Liverpool, qui n'a pris que 2 points en 3 matchs et déjà 7 points de moins que le leader Arsenal, auteur pour le moment d'un parcours parfait.
Quelques nouvelles de transfert de joueurs.
Sur le continent, l'internationale béninoise Nadège Atanluoto signe en Tanzanie pour 2 ans chez les Nyanga Princess. Avant la Tanzanie, elle a joué pour Atleta FC du Togo, conclut ainsi Queens du Nigeria, entre autres. En Europe, l'international ivoirien de Manchester United, Eric Bailly, serait sur le point de signer à l'Olympique de Marseille, nous dit la presse italienne. Autre possible transfert en cours, celui du Gabonais du FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang, qui rejoindrait Chelsea en Angleterre. C'est le journal espagnol Le Relevo qui donne l'information précisant que Chelsea a trouvé un accord économique avec le Barça. Aubameyang qui compte 73 sélections et 30 buts marqués avec l'équipe nationale du Gabon avait résilié son contrat à Arsenal l'hiver dernier pour rejoindre le Barça.
Yacouba Ouédraogo, merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, naissance pendant le week-end passé du MGC, le parti politique de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Le mouvement des générations capables s'est mué en formation politique, portant à sa tête l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo, qui a lui aussi récemment créé un nouveau parti. Est-ce la fin du compagnonnage politique de ce qui a été un couple emblématique dans la vie politique ivoirienne? Abdourahmane Dia a posé la question au journaliste et analyste politique Alexis Tano.
Tout à fait, ce n'est pas exagéré de parler de rupture avec M. Laurent Gbagbo, étant donné qu'un mouvement de soutien au départ, moi, des jeunes filles, de soutien au départ, ce mouvement s'est mué en partie politique depuis le samedi dernier. Donc, on peut dire que Mme Gbagbo est engagée pleinement dans une voie différente, surtout dans une voie concurrente à celle de son mari qui envisage aussi le pouvoir. Elle n'a pas caché, elle a dit que quand on crée un parti politique, c'est pour chercher le pouvoir.
Cela veut dire que les militants du FPI originel, hein, si on peut les appeler ainsi, seront un peu obligés de choisir entre Laurent et Simone Gbagbo?
Absolument. Dès l'instant où le mouvement des générations capables de devenir parti politique, il vise aussi le trône, le parti de M. Laurent Gbagbo également qui vise le trône, vous comprenez que dans les deux camps, c'est la bataille pour le pouvoir. Et Mme Gbagbo l'a laissé entendre également que ce n'est pas seulement le PTAPI que son mouvement va affronter, mais tous les autres partis qui se seront lancés dans la course au pouvoir. Donc, c'est une belle empoignade qui s'annonce.
Et justement, au-delà du FPI, qui peut être l'électorat de Simone Gbagbo et de son parti, le mouvement des générations capables?
Oui, au départ, c'était un mouvement de jeunes femmes, et elle en était la marraine. Mais il faut comprendre que depuis l'annonce du divorce et toutes les humiliations qu'elle aurait vues depuis l'arrivée de M. Laurent Gbagbo, il y a eu beaucoup de sympathisants, beaucoup de d'Ivoiriens qui ont pu faire cause pour elle, qui se sont manifestés pour sa cause. Donc depuis, il y a eu comme une effervescence pour la cause de Mme Gbagbo. D'où la création de ce mouvement qui aujourd'hui est devenu un parti politique. Donc, j'ai attendu, et je ne vous le cache pas, il y avait du monde à ces assemblées générales du samedi, du dimanche. Donc, vous comprenez bien que Mme Gbagbo ne vient pas sur un terrain vraiment neutre.
Est-ce que vous pensez qu'elle va se présenter en 2025 et quelles peuvent être ses chances?
Mme Gbagbo ne cache pas sa volonté de briguer le secret présidentiel. Mais quant à savoir ses chances, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'électorat est stratifié, il est difficile pour un parti politique d'aller aux élections et de la remporter. Mme Gbagbo n'étant pas une nouvelle figure, elle est bien connue sur le terrain politique, elle a de réelles chances, il reste la tactique, il reste la méthodologie, il reste la formule juste à trouver pour avoir plus de chance de ses côtés.
C'était le confrère Alexis Tano, joint à Abidjan.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Autrement appelé gaz vert, le biogaz s'illustre parmi les énergies renouvelables, ce qui lui accorde une place de premier choix dans une démarche écologique et économique. Dans les pays en développement, à l'instar du Togo, où le prix du gaz butane a considérablement augmenté, son utilisation pourrait être une réponse durable aux questions de sécurité alimentaire, d'accès à l'énergie, d'adaptation au changement climatique et de lutte contre la pauvreté. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Amen Assignon.
En gros, ici, nous avons le tuyau d'alimentation. C'est par là que nous remplissons le digesteur avec les déchets.
Le dispositif est ce qu'on appelle un biodigesteur. Il sert à produire du biogaz, du méthane précisément. Un gaz obtenu par méthanisation. Il s'agit d'un procédé qui consiste à fermenter des matières organiques, comme l'explique Jocelyn Adjé, ingénieur en électrotechnique.
Pour produire le biogaz, nous prenons les digestions que nous enfermons dans le biodigesteur. Il faut que la réaction se passe en absence de l'air. Donc, lors de la conception du biodigesteur, nous nous assurons de ce paramètre-là. Donc, une fois que les digestions sont à l'intérieur, au bout de quelques semaines, ils commencent par se décomposer et puis produisent le biogaz. Et c'est ensuite que nous versons à l'intérieur les déchets comme les restes de repas, les mauvaises herbes, qui alors tout se décompose aussi en biogaz.
Dans la mesure où les habitudes de consommation sont à l'origine d'une quantité importante de déchets, la possibilité de transformer ces restes en énergie via leur fermentation est davantage bénéfique à l'environnement. En plus d'être écologique, c'est une solution économique pour les ménages. Akosiwa a opté pour le biogaz depuis 2 ans. Cette mère de famille ne se tracasse plus pour cuisiner ni pour acheter du gaz.
C'est tellement pratique et économique. Quand on finit de manger, tout ce qu'il y a comme reste de repas, je le mets dans le digesteur. Je fais un peu d'élevage, donc tout ce qu'il y a comme défécation, j'ajoute aussi. Donc j'ai de quoi faire ma cuisine. Moi, je n'ai pas de problème avec l'augmentation du prix de gaz actuellement.
En ces périodes d'inflation du prix du gaz butane, le biogaz pourrait donc être une bonne alternative pour les foyers. Le dispositif qui permet d'obtenir le biogaz varie d'un modèle à un autre, selon les besoins des ménages. Adja Maoussi est technicien en bioénergie.
Nous avons plusieurs types de digesteurs. Les digesteurs mobiles en bâche et dont nous pouvons agir sur le volume pour répondre aux besoins du client. Nous en avons pour 1 mètre cube, 2 mètres cubes, 3 mètres cubes, etc. Et également le digesteur à dôme fixe que nous construisons sous terre. Ces deux types de digesteurs répondent vraiment aux besoins des ménages composés de plus de 2 personnes.
La méthanisation des déchets organiques permet d'obtenir le digesta, un résidu très efficace qui peut servir comme fertilisant en agriculture à la place des engrais chimiques. En moyenne, un biodigesteur de 6 mètres cubes produit 8 tonnes de compost par an et permet de préserver en moyenne 3 hectares de forêt dans l'année. Amen Assignon, Lomé, pour VOA Afrique.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la transition énergétique et le débat sur l'exploitation du pétrole et du gaz en Afrique. Lors de la COP26, plusieurs pays occidentaux et des organismes s'étaient engagés à ne plus financer de nouveaux projets d'énergie fossile à l'étranger, tout en encourageant les investissements dans les énergies renouvelables. Des pays africains, grands producteurs de pétrole, s'y opposent. Des environnementalistes craignent une catastrophe climatique si la RDC exploite son pétrole dans la zone de la cuvette centrale. L'Afrique et ses ressources énergétiques face aux défis climatiques, c'est ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Le Rwanda compte produire et utiliser son propre gaz naturel extrait du lac Kivu dès les premiers mois de 2024. Les analystes estiment que ce projet profitera non seulement à l'économie du Rwanda, mais aussi à celle de tous les pays de la sous-région, car aucun dans la zone ne produit du gaz. De Kigali, Jean Damascène Manishimwe.
Le lac Kivu, situé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, contient une grande quantité du gaz méthane, estimé à environ 65 milliards mètres cubes. Pour exploiter davantage ce gaz, le Rwanda vient de lancer les travaux de construction d'une usine d'extraction et de compression du gaz méthane, en le transformant en gaz naturel. Ce projet permettra au pays de réaliser sa vision de développement, comme le souligne le Premier ministre rwandais Edouard Ngirente. Le gouvernement du Rwanda s'est fixé l'objectif de rendre l'électricité accessible à tous les ménages à 100%, d'ici 2024. Ce projet vient appuyer cette vision que le gouvernement s'est fixée. C'est aussi une fierté pour nous tous Rwandais d'utiliser le gaz naturel produit dans notre pays. L'analyste économique Teddy Kaberuka estime que le Rwanda va gagner pour sa consommation et pourra ainsi limiter les importations du gaz qui était une charge énorme au pays.
Ben, il faut souligner qu'un projet pareil, c'est un projet qui crée de l'emploi à des milliers de personnes, c'est un projet qui peut déclencher d'autres innovations dans le pays et le pays va bénéficier autant d'expertise pour les investisseurs, mais aussi le pays va économiser ses devises.
Cet analyste indique aussi qu'un tel projet profitera non seulement au Rwanda, mais aussi à toute la communauté des États d'Afrique de l'Est.
D'une façon plus élargie, toute la région de l'Afrique de l'Est, aucun pays ne produit le gaz. Les pays qui produisent le gaz sont plus ou moins loin comme la Mozambique, mais toute la région, que ce soit la République démocratique du Congo, qui est juste à côté de l'unité de production de ces gaz naturels, le Burundi, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, ils vont tous profiter de cette usine et acheter à moins cher par rapport aux produits importés, que ce soit de l'Asie ou de l'Europe de l'Est.
À côté de l'intérêt économique global du pays, l'utilisation du gaz permettra de sauvegarder plus l'environnement en évitant le déboisement exagéré à la recherche du bois de chauffage largement utilisé dans les ménages au Rwanda pour la cuisson. Jean Damasenimani Chimé, VOA Afrique, Kigali.
Au Gabon, ce lundi, les populations ont eu accès à la promenade de la baie des Rois de Libreville. Ce projet, vieux de plus d'une décennie, prévoyait le réaménagement du bord de mer avec une marina, la corniche botanique et des espaces de vie sur 40 hectares. Le chantier partiellement livré suscite diverses réactions au sein de l'opinion publique. Notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
D'une étendue de 12 hectares sur 42 partiellement exploités, la promenade de la baie des Rois s'est ouverte au public librevillois. La position stratégique du site à côté de la mer suffit au bonheur de Madeleine Wora.
Ça donne une autre connotation des plages que nous avons ici au Gabon. C'est vrai, nous ne pouvons pas trop nous approcher du bord parce que c'est pas encore vraiment assez solide. Mais lorsqu'on regarde de l'autre côté, tu as cette sensation-là que tu n'es même pas chez toi au Gabon. Hein.
Se promener sur un sentier qui côtoie le vieux port de Libreville, visiter quelques expositions inaugurales du futur parc d'attractions de la ville, respirer les senteurs iodées, autant d'atouts qui attirent le public de la capitale gabonaise. Jumima n'a pas résisté au charme de la baie des Rois.
Alors ce qui me plaît, c'est la diversité des loisirs. Sur le parcours, nous pouvons observer plusieurs loisirs. Nous avons plusieurs activités à faire et tout.
Un lieu romantique par excellence, mais à surveiller après son ouverture, prévient l'un des promeneurs, Yann Olivier.
Mais attention, parce que qui dit coin de loisirs, ça dit aussi plein de difficultés avec les bandits, etc. Mais bon, cette fois-ci, je pense que ça va aller avec les autorités.
Sur le chemin piétonnier du parc, des centaines de visiteurs en quête de sensations.
Ce sont les débuts et il y a encore un grand espace exploité et on attend voir la fin.
Un peu plus d'attractions et aussi parce que ça pouvait diminuer les prix.
La réalisation de ce méga-projet est à la traite depuis plus de 10 ans. Le livrer partiellement fait réagir la société civile. Jérôme Mungongo est un activiste.
Alors que les Gabonais espéraient voir cette baie des Rois, triste est de constater qu'au lieu de son inauguration, c'est plutôt l'ouverture d'une promenade qui est annoncée par le pouvoir gabonais.
Pour les responsables du très laborieux chantier, il obéit désormais à un master plan avec une programmation urbaine bien étudiée. Emmanuel Edan, responsable de la façade maritime de Libreville.
Chaque parcelle représente un produit et ce bâtiment sera imposé. Nous avancerons petit à petit, c'est pour ça que vous n'avez pas d'activité sur d'autres zones, c'est qu'on souhaite finaliser une zone puis passer à la seconde.
En phase d'exécution et après des centaines de millions de francs CFA investis, le coût de ce projet relancé en 2015 est estimé à 15 milliards de francs CFA. La date de livraison complète du chantier est prévue courant 2025. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seludia, à la mise en onde, Lionel Ronanira Gahima, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.